Vous en parlez?
Non, je ne veux pas en parler.
Ok, Franck, je comprends. Donc, vous alliez me raconter le casse de la Lufthansa.
En effet. Mais je dois d'abord vous parler du fonctionnement de l'aéroport et des anges même. Vous devez connaître un peu le contexte, sinon vous n'y comprendrez rien.
Allez-y.
Bon. Toute l'industrie de la côte Est dépend de JFK pour l'expédition de ses marchandises et l'importation de l'équipement. D'accord? Ça inclut les affréteurs eux-mêmes, les compagnies aériennes naturellement, les transitaires qui acheminent les marchandises des compagnies aériennes aux clients, et puis, il y a les syndicats. Les syndicats sont essentiellement deux sections des Teamsters, la 295 et la 851. La 295 compte 2000 membres, camionneurs, aiguilleurs, employés de plateforme, opérateurs de monte-charge hydraulique, mécaniciens, employés de garage et avitailleurs. La section 851 représente les employés de bureau et les répartiteurs. Vous me suivez?
Oui.
Donc, imaginons que vous possédez une société. Par exemple, vous fabriquez des chaussures. Vous envoyez vos chaussures partout dans le monde. Vous avez je ne sais combien de milliers de paires et vous appelez un agent qui vous met en contact avec un transitaire. Le transitaire accepte le boulot et il peut s'arranger pour organiser l'emballage, le réemballage, le marquage, le pesage, tout. Vous avez 300 transitaires à votre disposition, qui utilisent pour la majorité leurs propres camions et leurs propres chauffeurs pour récupérer les marchandises sur leur lieu de fabrication et les acheminer à l'aéroport. Les transitaires gagnent leur vie en vous facturant un prix supérieur à ce que eux paient en expédiant de gros volumes par les compagnies aériennes. D'accord? Comme n'importe quel business, vraiment. Les transitaires sont les intermédiaires. Oui, les intermédiaires. Donc, vous voyez l'importance qu'ont les transitaires. Ils peuvent faire le succès ou la faillite des compagnies aériennes en leur envoyant leurs marchandises ou non. Le type de la société transitaire qui a le pouvoir de décision est l'agent principal. C'est le grand Manitou. C'est lui que les compagnies aériennes veulent avoir dans leur poche. Elles doivent lui faire plaisir, s'arranger pour que ça lui rapporte de travailler avec elles. Bon. La section 851 appartenait au Lucchese, et la plupart des agents principaux étaient représentés par la section 851. Les agents savaient quelles marchandises étaient dans quel camion. Ils savaient quand c'était 300 tonnes de beurre ou 600 boîtes de caviar. Ils savaient tout dans le moindre détail. C'était eux qui organisaient les sessions. Les quoi? Les sessions. Il s'agit d'une autre forme de détournement. Le chauffeur est payé pour laisser ses clés sur le contact et aller boire un café dans un restaurant quelque part à proximité de l'aéroport. Les détournements sont sans équivoque, il n'y a pas d'arrangement avec le chauffeur. Quand des truands détournent un camion, ils assomment le chauffeur, lui piquent ses clés, et ils font ce qu'ils ont à faire. Ils débarquent avec des armes, d'accord? Dans le cas d'une session, le chauffeur coopère et tout se passe sans bruit et sans violence. Les Lucchese avaient tout un réseau de magasiniers, d'emballeurs, de chauffeurs et d'agents de sécurité. Des millions et des millions et des millions de dollars de marchandises sortaient de l'aéroport et atterrissaient entre les mains des Lucchese. L'organisateur de détournement le plus célèbre de tous les temps était Jimmy Burke. Et il avait des contacts à l'aéroport qui le renseignaient sur les témoins éventuels et les informateurs du gouvernement. Sa réussite tenait uniquement au fait que personne n'osait aller à la barre pour témoigner contre lui. Pourquoi pas? Parce qu'il les liquidait. Ou du moins, il s'arrangeait pour qu'il soit liquidé. Et votre père le connaissait, je suppose. Bien sûr, tous les anges connaissaient Jimmy Burke. Donc, vous alliez me parler d'eux. Les anges. Ils étaient 12 en tout. Et chacun appartenait soit au bureau de contrôle du crime organisé, soit à la police des polices du NYPD. Ils avaient pensé à tout, vous voyez. Si une question était soulevée concernant l'intégrité ou l'honnêteté de l'un des agents du PCCO, alors la police des polices menait l'enquête et déclarait le patient parfaitement sain. Ils appelaient ça la visite médicale annuelle. Et ils s'en sortaient blancs comme neige. Il leur arrivait d'en parler à la maison. Pour eux, c'était une plaisanterie. Vous en avez rencontré certains? Certains, oui. Bon sang. Je ne me souviens pas de tous, et je ne leur ai jamais vraiment parlé. Quelques-uns sont toujours en vie. À la retraite, mais en vie. Ils possèdent probablement des propriétés avec vue sur la mer, à Pompano Beach en Floride et tout le toutim. Je me souviens de Don Hunter, et de George Buronski, et aussi d'un Italien, Mario quelque chose. Gamba. Mario Gamba. Et il y avait Art Bilic et Sean Beck, et un type nommé Randall Kubis. C'était les bons copains, vous savez. Ils venaient à la maison pour les matchs de football, pour les barbecues. J'étais gosse, j'avais 6 ou 7 ans au début des années 1970. Et j'étais adolescent quand mon père a intégré l'équipe spéciale de Brooklyn. J'avais 20 ans quand je suis entré dans la police. C'était en août 1984, et mon père et moi ne nous sommes plus beaucoup vus après ça. Je suis devenu inspecteur en 1996, et à l'époque, ça faisait déjà 4 ans qu'il était mort. Assassiné, j'ai cru comprendre. Oui. Comme 3 ou 4 autres des 12 membres d'origine, d'après ce que j'ai pu découvrir. Qu'avez-vous éprouvé à l'époque? Éprouvé? Bon sang, j'en sais rien. Qu'êtes-vous censé éprouver quand votre père se fait assassiner? Étiez-vous en colère après lui? Pourquoi? Parce qu'il était corrompu. En colère? Non. Je ne crois pas que la colère aurait été l'émotion appropriée, et ce n'est certainement pas ce que j'ai ressenti à l'époque. Je crois que j'étais simplement déçu, vous savez. Avec toutes les occasions qu'il avait eues d'être un type bien, il s'était juste avéré être un connard. Et votre mère est morte peu après. Que s'est-il passé? Il ne s'est rien passé. Elle est simplement morte, 4 mois plus tard. Elle s'est endormie un soir et ne s'est jamais réveillée. D'après l'autopsie, il s'agissait d'une défaillance cardiaque congénitale. Mais c'était l'une de ces femmes qui vivent pour leur mari. Et une fois qu'il est parti, ça ne sert plus à rien de continuer. Ça vous a touché? Bien sûr. Sa mort à elle m'a beaucoup plus touché que celle de mon père. Et savait-elle dans quoi son mari trempait? Savait-elle qu'il était corrompu? Bien sûr que oui. Bon sang, ils avaient plus d'argent qu'ils n'auraient jamais pu en gagner en tant que flics. Ils avaient des liasses de billets partout dans la maison. Rien n'était jamais déposé à la banque. Et il n'y avait pas de registre, pas de reçu, rien de tel. Juste des boîtes à chaussures et des sacs en papier remplis d'argent, planqués au fond des placards, sous le plancher et sous l'isolation au grenier. Et il n'arrêtait pas de les changer de place. Comme s'il avait peur que quelqu'un ne sache où il les avait cachés. Parfois, il devenait dingue. Il creusait des trous dans le jardin et il enterrait l'argent, pour le déterrer 3 jours plus tard et le planquer ailleurs. Est-ce qu'il vous est arrivé d'en prendre? Mon Dieu, non. Je n'aurais jamais osé. Il savait tout le temps exactement combien il avait. Et une partie de cet argent provenait du vol de la Lufthansa. Probablement, oui. Combien? Je ne peux donner qu'une estimation. Allez-y. Dans les 200 000 dollars, je dirais. Et les autres hommes? Ils étaient une demi-douzaine dans le coup, pour autant que je sache. Ils ont chacun reçu à peu près la même somme. 200 000 dollars, 6 types, ça fait 1,2 million. Ils ont volé près de 6 millions, et seuls 100 000 dollars ont été récupérés. Comment se fait-il qu'ils aient touché autant? Parce que c'était un gros coup. Il fallait un sacré cran pour le réussir. Ça s'est produit en 1978, et l'affaire a immédiatement été confiée au BCCO. Ils ont mené l'enquête, naturellement, et chaque fois qu'ils trouvaient quelqu'un qui savait quelque chose, chaque fois qu'ils mettaient la main sur quelqu'un dont ils soupçonnaient qu'ils pouvaient parler, ils le liquidaient. Tous ces types qui ont été impliqués, ils protégeaient leur intérêt particulier, et ils protégeaient Jimmy Burke. C'était, comme on dit, un arrangement mutuellement bénéfique. Votre père a tué des témoins? Des témoins, des informateurs, toutes sortes de gens. Vous croyez qu'un vol de cette ampleur va passer inaperçu? Il y avait des gens partout, à tous les échelons de la famille Lucchese, qui étaient au courant pour Jimmy Burke et le casse de la Lufthansa. Ils ne pouvaient pas se permettre que quelqu'un parle. Non seulement ils auraient perdu leur boulot, mais ils auraient fini en tôle et été forcés de rendre l'argent. En 1978, 200 000 dollars, c'était une somme énorme. Alors, racontez-moi ce qui s'est passé à JFK. JFK? JFK, c'était comme une manne inépuisable pour ces types. Ils n'arrêtaient pas d'y plonger les mains, et elles ressortaient pleines d'argent. J'aimerais en savoir plus sur votre père, sur les gens avec qui il travaillait. Eh bien, nous allons devoir remettre ça à demain. Je dois me farcir les salons de coiffure et les instituts de beauté avec Radic, et montrer la photo de la fille. Vous savez, Franck, vous êtes censé être ici 1 heure par jour, et vous ne restez généralement que la moitié de ça. En plus, vous perdez du temps en allant chercher du café. Et alors? Vous allez me dénoncer? Non, Franck, je ne vais pas vous dénoncer. Bon, vous m'avez fait parler. Considérez ça comme une victoire, hein? Considérez comme une victoire le fait d'avoir fait parler Franck Parrish de son paternel. Continuez comme ça, et je vais finir par chialer comme un môme sur votre divan et demander à voir ma maman pour lui confesser mes péchés. À demain, Franck. Un peu plus tard, disons 10h30.